Bienvenue à ce discours du Dharma. Et je commence avec une petite annonce qui est qu'après il y a les groupes et que je voulais rappeler que c'est vraiment important que tout le monde soit là. Donc on va faire en sorte que tout le monde soit là, donc ne partez pas directement après le discours. Ça va être dans la foulée en fait qu'on va faire les groupes. Je vais commencer par vous lire un passage du Petit Prince. Donc le Petit Prince, j'imagine certains d'entre nous l'ont lu, mais d'autres non, mais tout le monde a déjà entendu un peu parler. Mais juste pour vous rafraîchir l'histoire, donc c'est Antoine de Saint-Exupéry qui est en panne dans le désert avec son avion. Et il est en train de faire de la mécanique et il entend une voix qui lui dit « Dessine-moi un mouton ». Il se retourne et il y a un petit bonhomme habillé en prince qui est un peu mystérieux, déjà sa présence là et puis aussi la manière dont il évolue dans la discussion. Et voilà, il s'avère qu'en fait il vient d'une autre planète et peu à peu. Voilà, leur relation se développe. Et à un moment, donc, le petit prince, il part parce que du désert, il veut voir les hommes. Et donc, je vous lis le passage de sa rencontre avec le renard. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. » « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu ? » dit le petit prince, « tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. »« Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. »« Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. » Après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que ça signifie, apprivoisé ?» « Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, dit le petit prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. »« Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, dit le petit prince, je cherche des amis. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» « C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens. »« Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi que petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. » Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, parce qu'il y a une rose sur sa planète. Il y a une rose, c'est un peu une des raisons pour lesquelles il est parti, parce qu'il est un peu en dispute avec sa rose. Alors donc il dit, je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète ? Non. Ah, ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Ah, rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent. Et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi une chose de trop oubliée, dit le renard. C'est le fait qu'un jour est différent des autres, une heure des autres. Il y a un rite par exemple chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Et si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute !» dit le petit prince, « je ne souhaitais point te faire de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr !» dit le renard. « Mais tu vas pleurer !» dit le petit prince. « Bien sûr !» dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses et tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Il avait vu un champ de roses. Il avait été un peu triste parce qu'il croyait que la sienne était unique. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes en rien encore, dit-il. Personne ne vous a apprivoisé. Vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide pour moi, lui dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi. Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mis sous un globe. Puisque c'est elle que j'ai habitée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter. Même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Je trouve que ce passage du Petit Prince, dans ce passage du Petit Prince, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous apprendre des choses. Mais là, par exemple, il y en a un, c'est que veut dire apprivoiser? Comment on fait pour apprivoiser? Le renard dit au Petit Prince, on ne connaît que ce qu'on a apprivoisé. Et pour apprivoiser, il faut être patient. Il faut s'asseoir à une petite distance et observer et être avec. Et c'est une magnifique manière de décrire la méditation. S'asseoir à une petite distance et observer, rester avec et prendre le temps. Pas se ruer, pas intervenir, pas essayer de faire quelque chose. Juste s'asseoir à une petite distance et observer. Et peu à peu, on devient familier. Et peu à peu, on apprend à connaître. Peu à peu, on devient intime. Mais il faut de la patience. Il faut savoir aimer le silence, de la patience et aimer le silence. Et alors, on peut s'approcher des choses et on peut vraiment les voir, toutes choses. Dans un livre, il y a quelques années, je lisais un livre sur l'intelligence émotionnelle, écrit par Daniel Goleman, et il y parle d'une recherche qui a été faite dans des cours d'école sur comment les enfants rentrent dans un jeu. Donc c'est une étude qui a été faite sur les enfants qui... on a observé les enfants qui ne sont... Il y a un groupe d'enfants qui jouent et il y a un enfant qui voudrait aller dans ce groupe d'enfants pour jouer avec. Et on sait qu'à cet âge-là, l'enjeu est énorme. Parce que s'ils se font jeter, ils se font jeter cash. Et c'est très cruel, en fait. Il n'y a pas de diplomatie chez les enfants. Il va se faire jeter cash. Et donc, pour lui, l'enjeu est grand. Vraiment, c'est vraiment une démarche pas simple pour un enfant qui est extérieur, surtout s'il connaît encore peu le groupe ou pas le groupe, de savoir comment il va pouvoir rentrer. Et en fait, les enfants, ce qu'ils font, et on l'a tous probablement remarqué, ils ne vont pas directement les jouer. Ils ne vont pas directement entrer dans le jeu. Ils vont se tenir à distance et ils vont regarder. Et parfois longtemps. Et en fait, quand ils regardent, je pense à mon fils parce que je l'ai vu souvent faire, ils ne sont pas en train de regarder avec un manuel à cocher des cases de qui peut être violent, qui a l'air d'être un peu le souffre-douleur, qui a l'air sympathique et de qui je pourrais m'approcher le premier. Il n'y a pas un plan, mais il voit tout ça. Il voit tout ce qui se passe, et y compris le jeu auquel il joue, les règles, où il y a des points de tension. En fait, il voit la totalité de la situation. Ce n'est pas un processus qu'il fait parce qu'il a appris, on ne lui a pas appris, on n'apprend pas ça à nos enfants. C'est intelligent, c'est juste intelligent. C'est de nouveau cette intelligence qui est en lui et qui n'a pas été créée par lui, comme nous, c'est toujours la même, qui est toujours là et qui n'a pas été créée par nous. Elle sait comment faire. Elle reste à distance, elle observe. Jusqu'au moment où il va rentrer dans le jeu. Mais quand il va rentrer dans le jeu, il ne rentre pas directement comme s'il était un meneur. Il va rentrer discrètement. Si c'est par exemple un jeu de foot, il ne va pas tout de suite crier après la balle et être à fond. Il va commencer à jouer, mais discrètement. Et de temps en temps, une petite passe, et de temps en temps, si le ballon vient sur lui, il ne sait pas même trop quoi en faire, il le repasse directement. Et puis, peu à peu, il va prendre confiance et il va prendre sa place dans la situation. Et éventuellement, à la fin de tout ce processus, S'il a une autre idée de jeu ou s'il veut changer une règle, il va pouvoir le proposer. S'il a réussi à bien s'intégrer dans le groupe, mais pas avant. Donc il y a tout un long processus. Et il y a des enfants en fait qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle due à des traumas, parce que sinon elle est là, elle est naturelle, et qui du coup rentrent dans le jeu direct et parfois même essayent de tout de suite changer les règles. Et ceux-là, ils se font jeter encore et encore et encore avec une grande violence. Ils sont rejetés par le jeu, ils sont rejetés par la vie. Ils n'ont pas pris le temps d'apprivoiser, de se poser à une petite distance et d'observer. Ils sont arrivés directement dans le jeu avec une idée toute faite. Déjà, avec une idée d'eux-mêmes, de comment ils voulaient être, de la place qu'ils voulaient prendre, de comment ils voulaient jouer et de comment ils voudraient que le jeu soit. Et il y a un parallèle, là on voit qu'il y a plein de parallèles avec la manière dont on relationne avec la vie, avec notre quotidien. Mais il y a un parallèle qui est fort avec notre monde intérieur. C'est tellement difficile d'observer ce qui se passe sans intervenir, de se poser à une petite distance de soi-même et d'être attentif. Et juste voir, c'est quoi le jeu là? Avant de commencer à dire ça, ça ne devrait pas être et ça, ça devrait être comme ça. Mais en fait, dès que quelque chose apparaît en nous, on voudrait changer les règles. On voudrait intervenir et remettre tout en ordre. On ne prend pas le temps de se poser à une petite distance et de regarder comment ça fonctionne tout ça. Et de sentir. On a déjà une idée de ce que ça devrait être, notre monde intérieur. Un plan fixe, rigide, avec des notions de bien et de mal, et de ce qui ne devrait pas être là et de ce qui devrait être là, et de comment on devrait être et de comment on ne devrait pas être. Et du coup, on n'a même pas le temps de se voir que déjà, c'est la guerre. On n'a même pas le temps de dire « bonjour mon monde », que déjà, on est en train de construire des murs, des routes et de réarranger un petit peu tout le territoire. Un autre passage du Petit Prince. Donc là, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui parle. Et donc, il a rencontré le petit prince déjà, et depuis plusieurs jours, il est dans ce désert avec son avion qui n'arrive pas à réparer, ce drôle de petit bonhomme qui est là et qui pose des questions étranges. Et là, il dit, c'est le troisième jour que je connus le drame des baobabs. Cette fois encore, ce fut grâce aux moutons. Car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Parce que le petit prince, il lui a demandé de dessiner un mouton pour le ramener sur sa planète. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta, par conséquent, ils mangent aussi des baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des grands arbres, comme des arbres grands comme des églises. Et que si même il emportait avec lui un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée d'un troupeau d'éléphants le fit rire. Il faudrait les mettre les uns sur les autres, parce que sa planète est toute petite. Elle est tellement petite qu'il a expliqué déjà à un autre endroit qu'il pouvait voir plein de couchers de soleil, il suffisait qu'il recule chaque fois sa chaise. Alors les éléphants sur sa planète, ça le fait rire. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais elle remarqua avec sagesse, les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que ton mouton mange les petits baobabs? Ben, il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait d'une évidence. Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. En effet, sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, les bonnes graines et de bonnes graines et de pardon. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre, jusqu'à ce qu'il leur prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le sommeil. Une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'était des graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut plus jamais s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me dit le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et là encore, on peut voir un lien évident avec le travail de la méditation. On se pose à une petite distance de soi-même. Et même si on a décidé en fait de rester avec notre respiration, une bonne partie des choses qu'on voit apparaître, ce sont des pensées. En fait, on devient conscient de nos pensées quand on pratique la méditation. Alors que les instructions sont toujours, dès que vous voyez une pensée, vous quittez la pensée et vous revenez à la respiration. Et pourtant, on devient très, très connaisseur de ce qui se dit dans notre tête, du fonctionnement, du lien avec les émotions, du contenu, donc du contenu, du fonctionnement et de comment ça impacte. À imaginer, si on s'assoit des années, tous les jours, à essayer de rester avec la respiration, en fait, on voit tout le mouvement intérieur. Et peu à peu, on va voir en fait tout un tas de pensées qui sont inutiles. Et on va voir, elles continuent d'arriver, mais on voit qu'elles sont inutiles. Et du coup, celles-là, on ne les cultive pas, on les quitte. Ou, en fait, c'est intéressant parce que pour arracher une pensée. Nous, on ne peut pas vraiment en méditation dire qu'on arrache une pensée, comme on arrache une pousse de baobab. Mais il y a une autre manière. Il suffit d'arrêter de la nourrir. Il suffit d'arrêter de l'arroser. Le petit prince, il n'arrose que sa rose. Et puis, il y a quelques autres petites fleurs aussi, beaucoup plus simples que sa rose. Et ça, il les arrose, mais pas les baobabs. Il les arrache. Nous, on ne peut pas vraiment arracher les pensées en méditation. Par contre, il suffit de ne pas les arroser. Et elles disparaissent d'elles-mêmes. Hein, vous avez remarqué quand... Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pensées? Il y a tant de pensées parce qu'elles nous intéressent. Ces pensées, en fait, on investit quelque chose dedans. Bien sûr, on dirait, ah, moi j'ai envie d'avoir un esprit vide. J'ai envie de ce vide et de cet espace intérieur. Mais souvent, on aime nos histoires. Et du coup, on a du mal à les quitter. Et parce qu'on a du mal à les quitter, elles, quand même, elles arrivent à captiver notre attention. Et notre attention, c'est l'eau qui nourrit. C'est l'eau qui abreuve. C'est l'eau qui donne vie. Mais le petit prince, il nous prévient. Il ne faut pas arroser les baobabs. Parce qu'à un moment, ça devient trop gros. Ça prend de la place. Et du coup, il n'y a plus place pour le reste. Et puis même s'il y en avait trop et qu'on les a trop arrosés, ça peut faire exploser la planète. Donc on essaye d'avoir du discernement dans la méditation et puis après dans le quotidien, de voir ces pensées qu'on nourrit et de savoir que ces pensées sont des pensées égocentriques. On travaille à la construction de notre ego là, pour rejoindre le discours d'hier. Vers qui avons-nous tourné notre face? Pour qui est-ce qu'on travaille en ce moment? Et on peut voir, on se raconte des histoires dans lesquelles on est le plus grand héros ou la plus grande victime, quoi que ce soit, enfin on est quelqu'un, on est vraiment quelqu'un de très spécial. Et on bosse là-dessus. Toujours cette image, on veut être spécial dans les yeux des autres. Et du coup, on bosse sur cette image. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est en train de nourrir un baobab. Parce qu'après, on s'inscrit à un stage dans le désert, on marche dans le désert et on ne voit pas tout le désert. On voit des petits morceaux. Parce que le reste du temps, en fait, cette construction, elle a sa propre énergie et elle nous rappelle. Elle nous séduit. C'est ça qui est beau, c'est quand on comprend qu'en fait cette construction, c'est une construction. Et même si d'un certain point de vue elle a sa place, elle ne définit pas qui je suis vraiment en profondeur. Et du coup, je peux la laisser un peu de côté et toujours être. Tout à l'heure, quand on a écouté le sourate, c'est intéressant parce que j'ai réalisé que sourate, c'était presque un anagramme de sutra. Hein, les sutras en Inde, c'est aussi des récitations. Magnifique. Enfin, moi, je l'ai écouté quelques fois. Ça me touche énormément. En fait, ce qui passe dans la voix de cet homme, c'est je sens qu'il y a quelque chose qui existe en moi déjà. En fait, je me reconnais. Je me reconnais, je sens que tout ce qu'il y a à comprendre, je pense, est très important et j'aimerais comprendre ce qu'il dit. Mais ça, c'est un monde, le monde de ce que je comprends. Mais l'autre monde, c'est ce qui passe. Et ce qui passe, ça vient d'ailleurs. Ça vient de quelque chose qui est aussi en moi. En musique classique indienne, la musique est faite de sorte que le musicien qui improvise ait le temps. Il n'a pas besoin d'enchaîner rapidement des phrases. Vous voyez, là, il y avait le temps aussi. Hein. Eh ben, en musique classique indienne, si vous écoutez, c'est pareil. Donc le sitariste, il va jouer, il joue une phrasé. Et puis après ça, il a deux petites cordes au-dessus, ça s'appelle le tchitkari. Il fait. Il a le temps. Parfois, il peut rester longtemps. Et parfois, il fait un peu des jolis petits trucs avec ça. Mais il attend que ça vienne, en fait. Et là, tout joue avec son ego. Ego, pas d'ego. S'il y a un ego, il va commencer à se dire, là, il y a des grands musiciens juste devant moi, parce qu'en concert, souvent, il y a les grands musiciens de la ville qui sont là. Lui, il vient d'une autre ville de l'Inde, et les grands noms sont là à l'observer. Ils comptent, ils savent où il est, ils savent ce qu'il fait, et ils attendent la suite. Lui, il est là avec son petit chitkari. Alors, qu'est-ce qui se passe en lui? Soit il a confiance et il laisse venir, soit il n'a pas confiance et il cherche dans sa mémoire ce qu'il a déjà répété des millions de fois dans sa chambre et qu'il pourrait bien jouer maintenant. Et ça ne vient pas du même endroit du coup. Et ça se sent. Et ça, tout le monde le sent. Et ça, les Indiens, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui vient d'au-delà de la mémoire du musicien, que même le musicien, il est surpris de ce qui passe, c'est super fort en fait. C'est super fort. Et les Indiens, ils se lèvent et ils crient Hare Hare Mahadev. Et ils embrassent les dieux. Les dieux sont là, les dieux ont parlé. À travers, le musicien était vide parce qu'il s'est senti suffisamment en sécurité. Il avait confiance, mais pas confiance en lui. C'est tricky. Hein. J'ai écouté quelques fois donc ce sourate qu'on a entendu ici. Mais je n'ai jamais réussi à l'écouter tout. Ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que ça a été pareil un peu dans votre expérience. Il y avait des phrases dans lesquelles vous étiez et des phrases dans lesquelles vous n'étiez pas. Hein? Et la différence, elle est énorme. Parce que quand on est dans une phrase comme si c'était nous qui la chantions presque, quand on l'entend comme si elle venait de l'intérieur, quand on est dans la voix en fait de l'homme, on est sa voix, à ce moment-là, on sent ce que je décrivais qui, en fait, c'est moi, c'est en moi, je connais. Je connais ce qui chante, je connais cette énergie qui passe dans sa voix, je la connais. Et je la sens et je suis en contact avec elle dans ce moment-là. Ce qui en moi écoute, c'est ce qui passe dans sa voix. Il y a une reconnaissance, ce qui en moi est présent et ce que je sens dans sa voix, ce qui passe dans sa voix. Et les concerts de musique classique indienne, c'est une musique qui est faite pour permettre en fait qu'une partie de notre esprit s'endorme, le grand commentateur, et qu'il y ait ce phénomène un petit peu d'absorption et d'une présence tellement intense à chaque moment, quand on est passionné par cette musique. C'est une histoire qui se raconte et on ne peut pas rater une phrase. Quand on a un musicien qui est à cet endroit où ce qu'il exprime vient d'au-delà de lui-même, en tant qu'audience, on est à cet endroit dans lequel il n'y a pas place pour une petite pensée. De temps en temps, il y en a des petites quand même, mais ça fait comme des tout petits décrochages. Et il n'y a certainement pas la place pour qu'il y ait quelque chose qui se construise. Il n'y a rien qui va saisir cette pensée Et du coup, parce que à ce moment-là, c'est tellement bon d'être dans cet état que rien ne peut nous séduire. Mes projets, la résolution de mes problèmes, recommence à bosser un peu sur mon identité, là, parce qu'il faudrait y remettre une couche. Là, non. Là, l'état est tellement de transcendance, c'est tellement quelque part plaisant, mais on peut pas, on se dit même pas qu'on est dans un état plaisant, c'est pas ça. C'est pas ça, on ne le sait pas qu'on est dans un état plaisant. On est totalement absorbé. Là, il n'y a plus de nid. Là, il y a juste des coudes qui passent. Là, le canal est vide. Là, ce qui est au-delà écoute ce qui est au-delà de l'autre côté et qui joue. Ça passe des deux côtés. Deux vitraux qui s'observent et tous deux voient la lumière. Là, il y a des moments où aucune phrase n'est ratée. Chaque phrase, et on l'entend souvent dans le public, et on l'entendait là aussi, juste après la phrase, oh, oh, il y a vraiment un mouvement comme ça, mais on reste pris dans ce mouvement. Il n'y a pas, on n'est pas repris par notre histoire. Elle n'est pas là, notre histoire. Elle est juste absence, notre histoire. Notre histoire, pour exister, doit être constamment entretenue et maintenue par notre attention. Ce n'est pas quelque chose qui existe là et auquel on revient. Ça existe seulement au moment où on la construit. Le monde de l'ego est une perpétuelle création. Pas de construction, pas d'ego. Pas possible. C'est un processus de construction basé sur la mémoire. On enlève la mémoire, qu'est-ce qui reste? C'est un travail, c'est une activité mentale. Ce n'est enraciné dans aucune réalité. Et quand ce travail s'arrête, alors on est pleinement perceptif, on perçoit. Il y a une présence qui ne peut pas... Personne ne peut dire c'est ma présence. Il n'y a personne pour dire ça à ce moment-là. Et dans ces moments-là, la sensation du temps est complètement altérée. Le temps est une chose bizarre. J'entendais dire que c'était le concept le plus compliqué à saisir. Les enfants... En fait, ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. Il faut vraiment longtemps pour avoir une certaine maîtrise de ce qu'est le temps. Et là, dans ces moments-là, le temps disparaît. Un raga, parfois, c'est 3 heures. C'est une des manières dont cette musique est construite, c'est que c'est une musique modale, c'est-à-dire il n'y a pas des changements d'accords qui font changer un peu des états d'âme. C'est une musique modale, donc il y a quelque chose de continu derrière. Derrière le musicien, il va y avoir un tempura qui fait, je crois que ça s'appelle un drone ou quelque chose comme ça, c'est une nappe, toujours une nappe en fait modale. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne change pas déjà. Dans la musique, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est tout le temps là. Dès qu'il y a un silence, on l'entend. Dès que le musicien reprend, ça disparaît. Dès qu'il y a un silence, on entend, il y a quelque chose qui est tout le temps là. Et c'est très symbolique, hein? Et la musique peut durer des heures. Les Adia disaient, je rencontrais un musicien assez âgé, qui lui avait connu la période où il n'y avait pas encore les amplifications. Et il disait, quand il n'y avait pas l'amplification, on pouvait jouer pour des grandes audiences avec une qualité d'attention qu'on n'a plus maintenant depuis qu'il y a les amplifications. Parce que les gens n'ont plus besoin d'écouter pour entendre. Et du coup, on peut à la fois plus ou moins écouter, mais quand même un peu penser. Alors que là, parce que sitar, tabla, tous les sons indiens, c'est des instruments fermés. Si vous voyez le sitar, il n'y a pas un trou pour que le son ressorte. comme la guitare. Les tablas, c'est des petites percussions fermées qui jouent avec les doigts. On ne tape pas dessus comme ça et il n'y a pas de trou pour que le son ressorte. Ce n'est pas comme les batteries ou le bongo. C'est des instruments assez silencieux. Ils jouaient pour des grandes audiences. Mais du coup, l'audience, il fallait vraiment que tout le monde soit silencieux et hyper attentif. Et cette attention-là, en fait, ils étaient absorbés dans l'attention elle-même. Ce n'est pas que la musique à ce moment-là. C'est que la musique permet le silence de l'esprit et du coup permet ce moment délicieux de juste être. Il y a ça dans l'atmosphère aussi. Il y a énormément de vide. Peut-être que même l'expérience première, c'est le vide. La musique permet, séduit l'esprit de manière à ce qu'il puisse percevoir le vide. On pourrait le dire comme ça peut-être. Et quand la musique s'arrête, après plusieurs heures parfois du même raga, eh bien ça fait vraiment bizarre. Parce que c'est un peu comme après une sieste où ça a été très très profond et puis on se réveille, on ne sait plus vraiment dans quelle chambre on est, depuis combien de temps on dort. Il y a un truc comme ça où on revient subitement à soi-même, ou plutôt assez doucement, mais c'est quand même subi. Mais on rentre dans soi-même et les histoires peu à peu reviennent. Et où je suis dans Benares, et qu'est-ce que je vais faire après, et qui y a dans la salle, et tout ça. Mais il n'y avait plus rien de tout ça. Quand il y a une telle absorption dans le moment présent, Nisargadatta Maharaj, qui est un de mes maîtres hindous de la tradition Advaita, je l'ai cité déjà. Ah oui, celui, je l'ai cité hier. Celui qui parle toujours comme s'il était de là. Moi, ce corps va et vient et je ne suis pas affecté par ce qu'il vit quelque part. Je le vois, mais je ne suis pas. Voilà, il parle toujours un petit peu de là. Décrivait le moment présent comme ça. Il disait le moment présent. Donc le moment présent, c'est le moment où on est dans cette phrase du sourate. Celle qu'on n'a pas ratée, on est bien dedans, on suit chaque, on sent son souffle, on sent son souffle et on sent chaque modulation qu'il fait, on est dedans, on est avec. Dans ce moment-là, il dit, le moment présent, c'est comme un trou dans la feuille de papier. Il est dans la feuille de papier, mais il n'appartient pas à la feuille de papier. Il est sur la ligne du temps, mais ce trou, il permet à quelque chose de là-bas de passer. C'est un contact avec ce qui n'appartient pas au papier. Le trou est dans le papier, mais il n'appartient pas au papier. C'est dans la feuille, mais il n'appartient pas à la feuille. Et je la trouvais inspirante, en fait, cette description. Je trouvais qu'elle disait bien quelque chose. Et elle me donne l'impression que, du coup, quand je suis pleinement dans le moment présent, il y a cette perception de vide qui n'est pas vraiment une perception, en fait. La musique m'hypnotise. Et du coup, j'aurais l'impression que tout mon regard est sur la musique, mais ce qui est perçu, c'est le vide. Comme quand on voit un nuage qui passe dans le ciel, et on regarde le nuage, mais ce qu'on ressent, c'est l'immensité du ciel. Mais on ne regarde pas l'immensité du ciel, on regarde le nuage. Notre œil est attiré par le nuage, mais en voyant le nuage ou en voyant les étoiles, ce qu'on sent, c'est le vide. Ce qui est beau dans le fait quand on regarde les étoiles, c'est que ça nous fait sentir l'immensité. Ce n'est pas les étoiles en elles-mêmes, c'est le ressenti d'immensité. Et donc, on peut avoir cette illustration de la feuille de papier. On peut avoir la sensation que je suis là et dans le moment présent, du coup, ce petit trou me permet d'aller derrière la feuille. Ressentir et voir l'immensité. Mais on peut le voir aussi dans l'autre sens. Ce petit trou permet à l'immensité qui est là derrière de faire contact et de passer. Et tout ce qui est de moi est vu. Et la lumière du bien-aimé a éradiqué toutes les ombres. Vous vous rappelez de ce poème de Rumi ? Tu es amoureux de l'ombre, tu es amoureux du soleil, mais le jour de l'union, je ne sais plus comment il le dit, mais le jour de l'union, plus un seul de tes cheveux ne restera. Tu es une ombre amoureuse du soleil. Le jour de la rencontre, c'est une disparition. Merci pour votre écoute. On va prendre quelques minutes de silence ensemble. Vous pouvez rester comme vous êtes, hein. L'attitude de l'esprit. Quitter la pensée. Il n'y a que quelques minutes, donc il faut en profiter vraiment.